Le journal Thomas Larabie. Bonjour Thomas.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. La jeunesse mondiale continue sa marche pour le climat. 4 millions de personnes à travers le monde hier, selon les organisateurs. 250 000 à New York, autour de la figure symbolique de ce mouvement, la jeune Greta Thunberg. Reportage sur place dans ce journal.
En France, la journée sera chaude dans la rue avec les manifestations contre les retraites, une nouvelle marche pour le climat et encore les gilets jaunes. De quoi inquiéter les forces de l'ordre en cette journée du patrimoine.
Et puis ce samedi 21 septembre, c'est aussi la journée de la maladie d'Alzheimer. 2 millions de personnes seraient atteintes en France, parfois, et c'est moins connu, dès la quarantaine. Léa Dubois a rencontré la famille d'une personne atteinte de cette maladie neurodégénérative. On y revient à la fin de cette édition. Votre invité aujourd'hui, Caroline.
Eh bien, on va se demander, en s'appuyant sur l'actualité, comment remplacer la violence de nos sociétés par la conflictualité. Notre invité est la juriste Monique Chemillet-Gendreau. Ils sont plus chauds que le climat.
Oui, les jeunes continuent de se mobiliser contre le réchauffement climatique hier. 4 millions de personnes ont manifesté à travers le monde, selon les organisateurs, avec des rassemblements à San Francisco, Sydney, Berlin, Paris ou encore Londres. 250 000 personnes ont défilé dans les rues de New York autour du symbole Greta Thunberg. La correspondance sur place de Loïc Loury.
Des slogans par dizaines, mais aussi des idées. Les jeunes qui défilaient hier n'étaient pas là pour sécher les cours. La mobilisation part d'un constat. Les politiques sont à la ramasse. Nous devons, dit Esmé, prendre le contrôle.
C'est nous qui allons subir les effets du changement climatique. Et les adultes ne font rien, alors quelqu'un doit s'y coller.
Le discours dans la bouche de ces adolescents est bien rodé. La priorité ici, c'est de faire entendre raison à Donald Trump, dit Orla.
Donald Trump doit reconnaître que le changement climatique qui est là. Il doit en faire une priorité et essayer de contenir les dégâts.
Mais quelles mesures pour sauver la planète? Les pancartes brandies brassent large, justice pour les réfugiés climatiques, taxes sur les carburants ou simplement, selon Selena, l'interdiction des pailles en plastique.
Je crois qu'il faut juste interdire les choses néfastes et les gens finiront par s'adapter. On a connu un monde sans plastique, il faut revenir à ça.
Face à cette foule, les chefs d'État feront-ils seulement semblant d'entendre? Greta Thunberg à la tribune les met en garde.
Vous croyez qu'ils nous entendent? On va faire en sorte qu'ils nous entendent.
Et de Paris à Islamabad, en passant par Kampala, Bruxelles, Jakarta ou Vanuatu, les jeunes ont parlé. Reste à connaître la réponse des chefs d'État qui défileront la semaine prochaine à la tribune des Nations Unies.
Un reportage de Loïc Loury, une mobilisation pour le climat qui continue aujourd'hui en France avec une nouvelle marche prévue cet après-midi. L'eurodéputé EELV Damien Carême a travaillé à l'avènement de l'écologie à Grande-Synthe dans le Nord, commune qu'il a administrée de 2001 à mai dernier. Pour lui, cette prise de conscience de la jeunesse est liée à la surenchère du capitalisme. Il est au micro de Mathieu Laurent.
On recherche la croissance à tout prix. Alors on en est aujourd'hui à vendre des billets d'avion à 30 euros pour aller passer un week-end, je ne sais pas où, au Portugal ou à l'autre bout du monde. Et on sait très bien les ravages que ça crée ces voyages-là. Mais ça fait tourner l'économie, ça fait tourner l'industrie aéronautique. Et on est dans ces travers. Regardez, je pense que c'est le patron de L'Oréal hier qui dit que c'est bon la pollution parce que ça fait vendre ses produits cosmétiques et donc ça fait tourner l'économie. Mais les cancers, c'est bon aussi pour faire tourner l'économie parce que ça fait vendre des médicaments, des traitements médicaux, des lits médicaux, enfin voilà, mais on est encore à se servir d'un système aussi absurde que celui-là. Et il faut qu'on inverse les choses. Il faut qu'on arrête de prendre comme indicateur que ces indicateurs de croissance et de PIB, mais qu'on regarde le bien-être des habitants et quel avenir on assure à la vie sur Terre.
Qui sont les ennemis du climat, de la préservation de la planète?
Les élus qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui n'ont pas le courage de s'affranchir de ce système et de créer autre chose à la place, de mettre en place une autre société. Dernier exemple pour illustrer mon propos, on se targue de dire le budget de l'écologie en France va augmenter de 800 millions l'année prochaine, mais on supprime 1 700 postes. Quelles conséquences va avoir cette suppression de 1 700 postes? C'est que quand vous allez déposer un dossier pour rénover votre logement, pour faire une rénovation énergétique, il va mettre 3 fois plus de temps à être étudié parce qu'il n'y aura plus de fonctionnaires pour le faire. Et donc, les 800 millions d'euros, ils ne seront pas dépensés l'année prochaine. Donc voilà, moi, c'est ce qui crée l'angoisse, le venin de la difficulté aujourd'hui, c'est les politiques qui n'osent pas.
L'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Damien Carême.
Un exemple peut-être de la surenchère du capitalisme dénoncé par Damien Carême, c'est le déploiement de la 5G en Suisse qui est de plus en plus contesté.
Oui, la fronde s'amplifie chez nos voisins helvètes qui font partie des premiers à avoir mis en place cette technologie mobile. Une technologie permettant un débit jusqu'à 100 fois plus rapide que la 4G actuelle, sauf que la 5G pourrait avoir des conséquences pour la santé. Et de plus en plus de citoyens dénoncent un passage en force des opérateurs téléphoniques avant même de savoir s'il y a des risques pour la population. Une manifestation a lieu cet après-midi à Berne. Une correspondance de Jérémy Lange.
Je me suis réveillé avec des douleurs au niveau du cœur. J'avais l'impression que j'allais faire un infarctus.
Elida Narzoni ne se considère pas comme atteint d'électrosensibilité. Mais dès le lancement de la 5G à Genève au printemps dernier, il s'est pourtant senti mal au point de devoir aller aux urgences.
Ils m'ont dit, écoutez monsieur, vous n'avez absolument rien. Et je leur ai demandé, est-ce que ça pourrait être lié aux antennes 5G qui venaient d'être mises en route? Et là, ils m'ont dit, écoutez monsieur, on n'en sait rien. Le seul conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de déménager.
Des histoires comme celle-ci, Elida assure en avoir entendu plein d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne compte plus le nombre de collectifs anti-5G qui se sont créés ces derniers mois en Suisse. Des élus de tous bords s'y opposent également, comme le député centriste de Genève, Bertrand Boux.
Honnêtement, il n'y a aucun besoin de la 5G maintenant. Pour mettre une technique qui est purement commerciale, c'est une arnaque. Quand on va aussi vite et qu'on impose une telle technique sans en avoir les garanties, pour moi, ça me pose de gros problèmes.
Plusieurs cantons ont déjà gelé l'installation de nouvelles antennes 5G, dont le canton de Genève, présidé par le Vert Anthony Hodgers.
Qu'on ne sait pas, vaut mieux s'abstenir. C'est ça le principe de précaution. Je ne prétends pas savoir que les ondes 5G sont nocives. Je constate qu'il n'y a pas d'études très sérieuses et on est, comme souvent dans nos sociétés, avec une pression économique pour aller très rapidement de l'avant. Et dans ces cas-là, c'est souvent là où on fait faux. Donc je préfère prévenir que guérir.
L'OMS doit rendre un rapport sur l'impact des ondes de 5G sur la santé, mais ses conclusions ne sont pas attendues avant 2021.
Et de 45e samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes. Après avoir marqué une pause cet été, la mobilisation pourrait être plus conséquente. De sources policières, on attend une mobilisation de 2000 personnes sur Paris, 15 à 20 000 sur l'ensemble de la France. Le dispositif de sécurité sera lui important, de l'ordre de celui déployé le 1er mai dernier, selon le préfet de police de Paris, avec 7500 policiers et gendarmes, des canons à eau et des véhicules blindés. Les forces de l'ordre s'inquiètent de la multiplication des événements au même moment. Manifestation de force ouvrière contre la réforme des retraites, marche pour le climat, on le disait, le tout pendant la journée du patrimoine. Plusieurs lieux seront d'ailleurs fermés exceptionnellement cette année de manière préventive. Les explications de Mathilde Hémy.
Le périmètre est interdit, mais l'appel à manifester le plus suivi sur les réseaux des Gilets jaunes reste les Champs-Élysées, avec deux rassemblements annoncés à 10h. Contre le système, dit le premier, un acte historique, promet le second, pour plus de justice sociale et fiscale, un appel relayé par des figures du mouvement, Éric Drouet, Maxime Nicole ou Jérôme Rodriguez. Mais combien seront-ils derrière eux? Les groupes de covoiturage s'organisent, comme chaque samedi. Certains gilets jaunes annoncent venir pour la première fois, malgré la peur, souvent motivée par les violences policières. D'autres assurent que si un mouvement d'ampleur ne reprend pas, ils arrêteront de se déplacer chaque week-end. D'autres enfin affichent leur scepticisme sur un scénario qui se répète depuis 45 semaines, dénonçant l'inutilité soit de la violence, soit du pacifisme. L'un des groupes de gilets jaunes, habitué à déclarer les manifestations, dénonce lui le refus de la préfecture de valider cette fois leurs différents trajets qui visaient ensuite à rejoindre la marche pour le climat, un morcellement qui pourrait profiter à des groupes radicaux.
Les précisions de Mathilde Dehimi. Et l'invité de Caroline Brouet ce matin, c'est vous, Monique Chemier-Gendreau. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur de droit public et de sciences politiques à Paris Diderot. Vous venez de publier Régression de la démocratie et déchaînement de la violence chez Textuel. Alors, on vient de l'entendre, les mobilisations continuent et se multiplient en France avec des gilets jaunes. On l'a vu qui sont passés au fil du temps de revendications purement matérielles autour du prix de l'essence à des revendications démocratiques, le tout accompagné de violences policières. Est-ce que c'est le signal d'une véritable crise de la démocratie dans notre pays?
Oui, mais ça n'est pas nouveau. C'est une crise ancienne qui se manifeste de manière un peu plus forte actuellement. Le problème est que on voit apparaître à travers la crise des Gilets jaunes comment on peut avoir un système qui se dit démocratique et malgré le suffrage universel, malgré le multipartisme, des pans entiers de la population se considèrent comme exclus et ne considèrent qu'ils n'ont pas d'autres moyens de s'exprimer que de descendre dans la rue. Et là, ce qui est terrible, c'est que la réponse du gouvernement, alors il y a eu le grand débat, bien sûr, mais enfin, on n'en a pas vu beaucoup de résultats. On sait quand même que Gérard Darmanin a dans les tuyaux de réduire le nombre de centres d'impôts sur les territoires. Donc, on ne voit pas venir de solution véritablement pour revivifier les territoires, et le gouvernement répond par la violence policière.
Merci Monique Chemijandreau, on vous retrouve dans quelques instants au micro de Caroline Brouet. Et voilà qui ne devrait pas résoudre la crise démocratique et redorer l'image du pouvoir politique. Édouard Balladur et François Léotard sont menacés d'un procès dans l'affaire Karachi. L'ex-chef du gouvernement et son ancien ministre de la Défense pourraient répondre de leurs actes devant la CJR, la Cour de justice de la République. C'est en tout cas le souhait du procureur général François Molins dans un réquisitoire du 12 juillet révélé hier par l'Express. Les deux hommes sont soupçonnés d'être impliqués dans un système de rétrocommission illégale pour financer la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. Au centre du dossier, la découverte de fonds secrets issus de la vente d'armes au Pakistan est mise au jour après l'attentat de Karachi en mai 2002. Les explications de Jean-Philippe Degnaud.
Les enquêteurs ont d'abord travaillé sur la piste d'une attaque terroriste avant d'explorer une autre hypothèse, des représailles contre la France après la décision du président Chirac de suspendre le versement de commissions sur les contrats de vente d'armes avec le Pakistan. Des commissions et des rétro-commissions. Et ce sont elles qui auraient permis de financer la coûteuse campagne d'Édouard Balladur en 1995. C'est ainsi que l'équivalent d'1,5 million d'euros atterrit dans les caisses du candidat entre les deux tours. À l'époque, le Conseil constitutionnel avait pourtant validé les comptes de campagne. C'est d'ailleurs le principal axe de défense d'Édouard Balladur qui affirme que l'argent provenait des dons des militants et de la vente de pins et de t-shirts du Parti Républicain. Sans convaincre la justice donc, on voit mal comment ces dons auraient été stockés en billets neufs de 500 francs, ironise le procureur général de la Cour de cassation, et aurait miraculeusement permis de solder le déficit au moment opportun. Cette somme est nécessairement d'origine frauduleuse, conclut François Molins en demandant un procès. C'est maintenant à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République d'en décider.
Pins ou navire de guerre, ce sera donc à la Cour de justice de la République de trancher. 3 mois de prison avec sursis requis contre Jean-Luc Mélenchon dans l'affaire des perquisitions des locaux de la France Insoumise. Une perquisition en octobre 2018 émaillée d'incidents, des incidents qualifiés d'actes de résistance violente avec usage de la force par le parquet. La défense, elle, n'a eu de cesse de crier au procès politique. Les explications d'Antoine Marette.
Du début à la fin, Jean-Luc Mélenchon a tenté de politiser le procès. Dans la salle d'audience, devant ses militants venus le soutenir et face aux journalistes, il n'a cessé de le marteler à travers cette action en justice. C'est l'opposant à Emmanuel Macron que l'on a tenté de museler. Pendant ces 2 jours, il a évacué les questions posées par le tribunal. Pourquoi crie-t-il sur les forces de l'ordre venues pour la perquisition ? Parce qu'il est malentendant et méditerranéen. Pourquoi s'est-il montré si véhément ? À cause de son sentiment d'humiliation. D'ailleurs, il n'a pas voulu s'opposer à cette perquisition, il a simplement voulu y assister. Jean-Luc Mélenchon le sait, le risque judiciaire est minime. Le parquet de Bobigny a requis 3 mois de prison avec sursis contre lui. L'inéligibilité ne figure pas dans les réquisitions. Alors il s'est servi de cette audience pour tenter de ressusciter médiatiquement dans le rôle de la victime d'un vaste complot, incluant le gouvernement, les médias et le parquet.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre. Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. En France, 2 millions de personnes en seraient atteintes, selon France Alzheimer. Une maladie difficile à vivre, notamment pour les aidants, ces personnes aux côtés des malades. Léa Dubo a rencontré le fils d'une personne atteinte de cette maladie.
Olivier Briand s'occupe de sa mère atteinte d'Alzheimer depuis 8 ans. Quand la maladie s'est déclarée, il avoue avoir été dans le déni.
Parce que c'est pas évident. Je pense que dans le fond, on sait, mais on veut pas se l'avouer. Et puis, à force, c'est vrai que ça se développe et qu'à un moment donné, on n'a plus le choix. Et donc, c'est difficile d'accepter ça, qu'on a un proche qui soit malade et sachant que ça va bouleverser sa vie et la nôtre, et en fait de toute la famille.
Aujourd'hui, il témoigne lors de conférences de son rôle d'aidant au quotidien. Sa mère est accompagnée à domicile et il se protège pour que la maladie ne prenne pas trop d'ampleur.
Moi, je n'ai plus qu'un téléphone portable, mais je le coupe la nuit. Tant pis, j'accepte le risque. Oui, elle peut tomber la nuit. Oui, elle peut peut-être avoir des angoisses et elle va appeler, je ne vais pas répondre parce que j'ai coupé. Mais c'est à ce prix-là, moi aussi, que je vais tenir le coup. Et j'essaie de me dire que je fais le mieux que je peux au moment.
Pour les aidants, des séjours de répit sont proposés, comme l'explique Evelyne Rabec, responsable de l'antenne saint-loise de France Alzheimer.
C'est une semaine où on accueille 10 couples. On prend en charge le malade autant que faire se peut pendant cette semaine pour libérer, permettre du répit à l'aidant, de laisser la maladie de côté pour revivre.
Et l'association note que la maladie, souvent associée à l'âge, touche de plus en plus de jeunes.
Un reportage de Léa Dubo. Du côté de la météo, grand soleil aujourd'hui, à l'exception de la Nouvelle-Aquitaine et du pourtour méditerranéen. Ils auront droit à quelques gouttes de pluie et même quelques éclairs. L'Hérault est placé en vigilance orage par Météo France à partir de 11h. Côté température, comptez 20 à Strasbourg et Brest, 26 à Paris et Lyon, 27 à Ajaccio et 28 à Bordeaux.